New Wave, l'émission. Petite chronique nombriliste d'albums. Aujourd'hui, Joy Division. Je vous invite à découvrir, ou à redécouvrir, des groupes issus du mouvement New Wave vus par le prisme chronologique de mes découvertes d'albums durant la décennie 80-90 et agrémentés de quelques souvenirs personnels. Après une escapade à Leeds avec Gang of Four et ses musiques mêlant punk rock et funk, le groupe qui allait marquer profondément cette décennie 80-90 et le jeune homme que j'étais se nomme Joy Division. Il vient de Manchester. Et si Mother, enfin je veux dire Morrissey et Smith, nous chantait un Oh Manchester avec un brin de lyrisme nostalgique et lumineux dans la voix, les Joy Division, eux, nous racontaient et chantaient une ville au plafond bien bas et des personnages se coltinant un gros mal de vivre. Joy Division est un groupe devenu ultra culte par la radicalité de sa musique, par les textes introspectifs de son chanteur Ian Curtis, sa gestuelle scénique très singulière et son histoire personnelle tragique. En effet, Curtis est considéré comme une sorte de poète maudit, et le public, qui a ses penchants voyeuristes, voire sadiques, mais si, aime un brin que ses idoles soient tourmentées, qu'elles rentrent dans la légende en ne dépassant pas la fameuse barre des 27 ans. Je crois même qu'un club des 27 a été constitué avec Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain et consorts. Mourir jeune et en pleine gloire, c'est l'assurance de devenir un mythe. De fait, vous ne décevrez pas votre public en ayant un gros bide, une calvitie précoce, ou en publiant au fil du temps des albums de moins en moins inspirés. Non, vous resterez éternellement fidèle à l'image du poster punaisé sur le mur d'une chambre d'ado, qui lorsqu'il se sera fait plaquer par sa petite amie, pourra passer un de vos albums et partager avec vous la complexité et la cruauté de la condition humaine. Il faut dire que Curtis portait de lourdes valises. Marié trop jeune et père d'une petite fille, il découvre qu'il est épileptique peu après son arrivée dans le groupe. Les traitements sont alors lourds et présentent des effets secondaires pas faciles à gérer. Voyant ces crises s'accentuer au fur et à mesure que le groupe gagne en notoriété, le gars peut légitimement se faire du mouron. C'est d'ailleurs la solution qu'il trouvera, mourir, un soir tout seul chez lui, son couple battait de l'aile depuis qu'il avait rencontré une jeune journaliste belge lors d'une tournée, en se pendant avec une corde à linge, comme un vulgaire slip, après avoir regardé la télévision et écouté un disque d'Iggy Pop, The Idiot me semble-t-il. Mais surtout, ce geste désespéré a lieu la veille du départ du groupe pour une tournée aux États-Unis. Peut-être trop de pression et d'enjeux pour Curtis, qui doute alors de ses capacités physiques et psychologiques pour assurer cette opportunité de rendre le groupe populaire hors des frontières de la vieille Europe. Car pour le moment, je n'évoque que Curtis, mais Joy Division est un groupe composé de fortes personnalités. D'ailleurs, l'après Joy Division, avec New Order, a montré ce qu'étaient capables de réaliser les autres membres du groupe réunis sous cette nouvelle formation et avec brio. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs comme disait ma grand-mère et revenons à Joy Division. Comme nombre de jeunes gens, les futurs membres de Joy Division assistent le 4 juin 1976 à un concert des Sex Pistols à Manchester et se prennent une grosse claque tout en se disant « si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi ?» C'est la grande force du mouvement punk, d'avoir ouvert tout un champ des possibles à des non-musiciens, je veux dire sans formation musicale de type conservatoire ou autre. Autodidactes, ils vont se débrouiller pour inventer leur propre langage musical en devant transformer leurs lacunes techniques en force, en un univers sonore singulier. Composé de Ian Curtis au chant, de Peter Hook à la basse, de Stephen Morris à la batterie et de Bernard Sommer à la guitare, Joy Division est, me semble-t-il, le groupe de cette décennie 80-90 qui incarne le mieux cette nouvelle façon de faire de la musique. Pour ce faire, ils seront accompagnés par un jeune ingénieur du son de génie, Martin Annett, d'un label, Factory Records, et d'un graphiste, Peter Saville. Ce cocktail de personnalité va accoucher du premier album produit par le label et de Joy Division, à savoir Uno Pleasure. Le choc généré par ce disque est immense, pour différentes raisons, se résumant justement dans la personnalité des intervenants sur cet album. La pochette est incroyable, toute noire, sans texte, ni mention de nom de groupe, et avec en son centre un énigmatique graphisme aux fins traits blancs, bref, un monument. Cette ambiance mystérieuse autour de l'objet va attirer l'attention du public, surtout qu'après la pochette, l'étonnement et la surprise sont encore de mise, car également gravés dans les sillons du vinyle, avec un son jamais entendu dans les productions de l'histoire de la musique rock. Avec cet album, Joy Division conçoit une véritable œuvre d'art, un truc vraiment à part, du jamais vu ni entendu. Le tout accompagné des textes tourmentés de Ian Curtis et d'une musique profonde et sombre. Perso, je découvre The Cure avant Joy Division. Je pensais avec les premiers avoir découvert ce qui pouvait se faire de plus sensible, dépressif, minimaliste et habité, mais finalement j'étais loin du compte. Je ne remets pas en cause la sincérité de Robert Smith ni son travail dont je suis un très grand fan, surtout pour la fameuse trilogie, mais il me semble que Curtis va beaucoup plus loin dans l'introspection et le grattage des plaies de l'âme. Vous me direz que nous ne sommes pas à un concours de celui qui a le plus mal et vous aurez raison. Mais pour moi, découvrir ce groupe et ce chanteur était très fort émotionnellement, car m'identifiant au mal-être de Curtis, étant sujet à cette époque à des crises d'angoisse et de panique qui me pourrissaient l'existence et m'handicapaient dans mon quotidien, et puis j'avais le sentiment de découvrir une sorte de Baudelaire contemporain. Uno pleasure et spleen, même combat.
See, a loaded gun won't set you free.
Sur cet album, pas de titre faible, un concentré de morceaux créés et joués avec les tripes. On associe souvent les Doors, le Velvet Underground, comme source d'inspiration pour le groupe, ce qui me semble assez juste. Je me demande souvent quelle aurait été la suite donnée par Joy Division après ce premier opus et le suivant intitulé Closer, si Curtis n'avait pas, par son geste désespéré, signé aussi la mort du groupe. Une piste à suivre est peut-être celle ouverte par la chanson Love Will Tear Us Apart, plus pop avec l'arrivée de plages de synthé, mais qui sait. L'album Closer qui sort en juillet 80 prend le contre-pied de Uno Pleasure pour ce qui est de la couleur de la pochette. Elle est blanche et ornée d'une photo en noir et blanc représentant une sculpture funéraire très réaliste. Le ton est donné et l'album est aussi désespérément beau que le premier. Mais à son écoute, on sent une évolution annonçant ce qui va être produit ensuite par les artistes de cette période, à savoir la Cold Wave et le gothique. Je trouve ce disque plus atmosphérique que le précédent. La présence de synthé peut expliquer ce ressenti. Mais bon, Joy Division reste un groupe sombre et fidèle à son esthétique musicale. Vous êtes bien sur Radio U pour l'émission New Wave 101.1. La suite, ce sera la création de New Order par les membres du groupe. Il ne remplace pas Ian Curtis, et c'est Bernard Sommer, le guitariste, qui assure aussi le chant. Entreprise périlleuse s'il en est, mais Bernard fait bien le job et le premier opus de New Order, qui s'inscrit dans la lignée des albums de Joy Division, est un très bon cru. Par la suite, avec l'arrivée d'un nouveau membre au clavier, Gillian Gilbert, la compagne du batteur, le groupe va prendre un virage vers l'électronique. Le titre Blue Monday fera un carton dans le monde entier et sur les pistes de danse. C'est un nouveau départ pour New Order. Depuis, New Order poursuit son chemin avec des séparations et des reformations, des concerts, des albums. L'aventure se poursuit donc, mais sans le bassiste Peter Hook, qui mène une carrière solo. Mais tout cela n'a pas la consistance des productions passées, et pour moi le meilleur est derrière nous, à moins d'un miracle, on ne sait jamais. Reste que ces loustiques de Manchester ont sacrément secoué le monde de la musique avec seulement deux albums à leur actif, mais quels albums ! Beaucoup de groupes les citent en influence et l'esprit de leur musique continue d'être distillé ici ou là, preuve que le propos était juste et fort. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur ce groupe, de nombreux ouvrages existent, ainsi qu'un bon film intitulé Control, et qui relate toute son histoire en focalisant sur Ian Curtis, mais sa position de chanteur et sa fin tragique expliquent sans doute ceci.
Game at the foot of the garden. My view stretches out from the fence to the wall. No words could explain, no actions determine. Just watching the trees and the leaves as they fall.
Merci pour l'écoute et merci à toute l'équipe de Radio U. Prochaine émission, Dépêche Mode. On change d'ambiance. Quoique.
Tonight, I'm in the hands of fate.